Yafa soa, Nelly Tapsoba.
L'archéologie, une discipline assez méconnue des populations sous nos cieux, mais qui connaît un certain engouement depuis quelques années, surtout au sein de la jeunesse. On en parle dans ce Yafa soir. Mercredi, nous avons parlé des mouches de fruits, un ravageur qui menace la production de mangue dans l'ouest du Burkina. Nous verrons aujourd'hui comment la reconnaître ainsi que son cycle de développement. Et puis ce vendredi 6 juin, les fidèles musulmans célèbrent la fête de la Tabaski. Quel est le sens de cette célébration? On en parle dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver.
Racine.
Étudier les vestiges du passé, comprendre comment vivaient les humains d'autrefois, c'est entre autres le travail d'un archéologue, un métier peu connu du public mais qui semble gagner du terrain auprès de la jeunesse. À l'université Joseph Kizerbo, il se tient jusqu'au 31 juillet une exposition archéologique. L'occasion de mettre en lumière le travail des pionniers de la discipline au Burkina Faso et de permettre au public majoritairement jeune de découvrir les trésors du passé. Fanny Tapsoba y a fait un tour. Son reportage avec la voix d'Alice Ouedraogo.
Dans le bâtiment de l'école des doctorants en archéologie à l'université de Ouagadougou, une foule d'étudiants anime les lieux. Parmi les exposants, Aissatou Maïga, doctorante en archéologie, se fait remarquer par son enthousiasme débordant. Souriante et visiblement heureuse de prendre part à cet événement, elle se dit fière de son choix.
Moi, j'étudie de l'archéologie. Je peux dire même que ça a été la meilleure chose. En tout cas, en fonction des études, ça a été le meilleur choix. Donc, je ne regrette pas du tout. Je me sens très à l'aise dedans.
À l'image de Aissatou, Adama Sienou est aussi étudiant en archéologie. Au-delà de son enthousiasme pour cette filière, il espère un véritable soutien de la part des autorités afin de pouvoir exercer pleinement sa passion.
Ailleurs, comme ça, on entend parler de l'archéologie de sauvetage, l'archéologie préventive. Malheureusement, au Burkina Faso, c'est pas très bien développé. Donc là, nous demandons à l'État burkinabé de donner de la force à l'archéologie. Lorsqu'on a des infrastructures à construire là, qu'on permette aux archéologues de passer avant qu'ils ne commencent les travaux là. Ça permettrait de sauver certaines vestiges que la construction des infrastructures là peuvent mettre à mal.
Depuis son ouverture, l'exposition attire l'attention de nombreux curieux à l'image de Latifatou Ilboudo, élève en classe de seconde. Sourire aux lèvres, elle est visiblement émerveillée face aux découvertes.
Il y a des trucs qu'on ne nous avait pas dit, on est venu. Ça nous a permis de découvrir qu'il y avait des gens bien avant nous. Et à travers les instruments de ces derniers-là, on a pu étudier leur mode de vie, comment ils vivaient il y a fort longtemps, et puis comment ils arrivaient à se défendre.
Cependant, ce choix d'études n'est pas toujours compris du grand public, déplore Aissatou.
On a tendance, quand on parle d'archéologie, de voir l'art funéraire. L'archéologie ne se tourne pas autour de l'art funéraire. Parce qu'en ville, quand je fais de l'archéologie, ah, c'est vous déterrez les tombes. Il y a peu de gens actuellement qui ne savaient pas qu'au Burkina, nos grands-parents ont eu à produire du fer. Et si on explique à nos parents que si j'étudie ça, c'est pour montrer que vos arrières ont créé quelque chose, qui vous ont laissé, ils vont comprendre et puis ils vont nous accompagner.
Afin de pallier à cela, le professeur Célestin Ki, enseignant-chercheur, recommande d'introduire les cours d'archéologie aux élèves depuis le bas âge.
Peut-être que il faut commencer à parler de cette discipline au secondaire et ensuite, à partir de la première année, motiver les étudiants pour qu'ils s'engagent en archéologie, mais surtout aussi voir des débouchés de la fonction publique en archéologie, parce que c'est ça aussi. Lorsqu'on se forme et puis au bout, il n'y a pas de débouchés en termes d'emploi, ça n'encourage pas les étudiants à s'engager dans cette discipline. Mais si la fonction publique ouvre des emplois en archéologie, c'est sûr que ça va intéresser les étudiants.
L'archéologie, longtemps restée méconnue, commence à se faire de la place dans le cœur des jeunes. À travers leur passion, ces jeunes archéologues nous rappellent que connaître le passé, c'est mieux comprendre le présent et imaginer l'avenir.
Allô, docteur.
Depuis de nombreuses années, les dommages causés par les mouches phytophages ou mouches de fruits ont été reconnus comme un problème à forte incidence économique et sociale, tant sur le plan local que national. Comment reconnaître cette mouche et quel est son cycle de développement? On en sait plus avec Dr Nouhoum Traoré, chercheur à l'Institut de recherche en sciences de la santé de Bobo-Dioulasso. Il est au micro de Cécile Traoré.
Bonjour docteur, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est que la mouche de mangue?
Parlant de la mouche de mangue, il faut dire qu'on a plusieurs espèces de mouches de mangue. Parmi les plus problématiques, bien sûr, on a notamment Ceratitis cocira, qui était la mouche locale. Et ensuite, on a Bactrocera dorsalis, qui est un peu la mouche exotique, je dirais. C'est une mouche, en fait, qui s'identifie facilement à travers sa couleur. On a deux bandes jaunes au niveau du thorax. Et c'est un thorax qui est tout à fait noir ou foncé. Ça peut être orangé et foncé. L'autre aspect également, c'est qu'au niveau de l'abdomen, on a également un insigne en forme de T.
Parlez-nous un peu des différents cycles de développement de cette mouche.
Il faut dire que la mouche Bactrocera dorsalis, dans leur cycle de développement, ça veut dire quand la mouche doit se reproduire, après l'accouplement entre le mâle et la femelle, une fois que la femelle est porteuse d'œufs, elle est obligée de trouver en fait un fruit hôte pour y pondre ses œufs. Parce que la femelle ne peut pas porter les œufs et les amener à terme. Donc il faut forcément chercher une couveuse entre griffes. Et la couveuse, c'est le fruit hôte. Et ici en fait, la mouche de fruits Bactrocera dorsalis va utiliser préférentiellement la mangue comme couveuse. Donc la mouche femelle gravide va aller pondre ses œufs au niveau de la chair des mangues, en piquant la peau jusqu'à atteindre la chair et déposer en fait les œufs. Donc la mangue va servir en fait de couveuse pour mener à terme les œufs jusqu'à ce que les œufs éclosent et donnent des larves.
Merci docteur.
Tout savoir sur...
La Tabaski, encore appelée fête du mouton, est célébrée chaque année 2 mois et 10 jours après la fête de Ramadan par les fidèles musulmans. Quelle est la signification de la Tabaski que symbolise l'immolation du mouton? L'imam Alidou Ilboudo, coordonnateur du Centre culturel islamique pour le vivre ensemble, nous répond au micro de Flore Kospori.
Bonjour, imam Ilboudo.
Bonjour.
Quelle est la signification de la Tabaski?
La Tabaski signifie Eid al-Adha, la fête du sacrifice, ou Eid al-Kibir, la grande fête. On dit Eid al-Adha parce que c'est une fête durant laquelle on doit sacrifier un mouton. La Tabaski commémore le sacrifice de Abraham alayhi salam. Ibrahim, qui est le père des croyants, a été éprouvé par Dieu, et à la fin, Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique pour prouver sa foi. Et il a accepté ce sacrifice-là. Au dernier moment, Dieu a racheté la vie de l'enfant par un bélier. Donc c'est ce sacrifice-là que nous commémorons par la Tabaski. La Tabaski aussi se fait à la fin du grand pèlerinage musulman, le Hajj, qui se fait actuellement à la Mecque. Donc, à la Mecque, pèlerins reparcourent les endroits que Ibrahim et son fils aussi ont parcouru et aussi font le sacrifice au même moment. Donc, voilà un peu la place de Tabaski en islam.
Que symbolise l'immolation des moutons lors de la Tabaski? Et faut-il forcément un mouton?
Le symbole du sacrifice, c'est refaire l'acte de Ibrahim. Alors, tout père de famille, ce jour-là, va répéter ce sacrifice-là pour se rappeler le positionnement de Ibrahim, pas par rapport seulement à ce sacrifice, mais ça sera un rappel de toute sa vie. Donc c'est un engagement que le croyant refait en faisant ce sacrifice là pour entrer dans l'alliance que Ibrahim alayhi salam avait avec Dieu. C'est vrai, à l'époque c'est un bélier qui est sacrifié, mais aujourd'hui on peut sacrifier plusieurs sortes d'animaux parmi ceux qui sont légiférés pour le sacrifice. Donc on peut sacrifier le chameau ou la chamelle, le bœuf ou la vache, le bélier ou la brebis, la chèvre ou le bouc. Donc voilà les 4 types d'animaux qui peuvent être sacrifiés.
Est-ce une obligation pour tout musulman de faire ce sacrifice?
Non, ce n'est pas une obligation stricte, de la même manière que nous faisons la prière ou le jeûne. C'est une recommandation très forte, mais qui n'est pas individuelle. Pour chaque famille, un sacrifice. Si j'ai pu le faire, alhamdoulilah, si je n'ai pas pu le faire aussi, il n'y a pas de problème.
Et comment tuer le mouton de la Tabaski et c'est à quel moment précis?
Le sacrifice doit se faire le jour de la fête ou les trois jours suivants. Donc on a quatre jours pour faire le sacrifice, mais on le fait après la prière. Le sacrifice aussi se fait de la même façon qu'on égorge les animaux tous les jours. Bon, seulement ceci, on prend l'intention que c'est pour le sacrifice de la Tabaski. Voilà, dans son fort intérieur, on demande à Dieu d'accepter comme il a agréé pour Ibrahim et pour son fils Ismaël.
Merci beaucoup, Imam.
Merci à vous.
Phoenix Music.
C'est tout pour ce Yafa Soir. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Et c'est sur le titre Sambé Sambé de l'artiste malien Jigi Sora que je vous souhaite une excellente fête de la Tabaski à toutes et à tous.